nous méditons les voies que Dieu nous propose pour entrer dans la transformation chrétienne par l'oraison. La transformation chrétienne, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui nous transforme. Et il faut bien reconnaître qu'on ne laisse pas beaucoup l'occasion au Seigneur de nous transformer. Et c'est pour ça que c'est les temps de l'oraison qui permettent à Dieu, enfin, peut-être, de pouvoir essayer de nous transformer. Pour autant qu'on lui en laisse la liberté. Et on sent très très bien que, en dehors de la raison, il est strictement impossible au Seigneur d'agir. On voudrait bien être de plus en plus des disciples de Jésus. Mais si c'est pas ça, si c'est pas la très sainte Trinité qui transforme toute notre pâte humaine, eh ben notre transformation, à force de poignet, voyez, à la force du poignet, je veux être bon chrétien, va faire que notre christianisme va devenir un peu extérieur. Dans nos yeux vont briller nos yeux vont briller de lumière christique. On va faire des efforts héroïques pour arriver à ne pas dire ces jugements de condamnation et tout ça. Enfin bref, on va faire des tas d'efforts, mais on ne sera pas beaucoup plus, on ne sera pas transformé pour autant, parce que ce n'est pas nous qui nous transformons en membre vivant du Fils unique de Dieu, mais c'est Dieu qui fait ça. Et toute la difficulté qu'il y a entre cette transformation que nous désirons, beaucoup. Et puis, chez les premiers chrétiens, il y a eu cette hérésie qui s'appelle le pélagianisme. Et puis ensuite le néo-pélagianisme, qui est une hérésie. Qui est une hérésie de générosité. Déjà, il dit on va être très généreux, et en fait, finalement, on va faire beaucoup d'efforts, et du coup, Dieu nous bénira. Mais. Et en fait, les siècles et les siècles d'expérience chrétienne montrent que. C'est pas nos efforts qui font l'essentiel du c'est pas nous qui allons nous transformer. Vous voyez, ce n'est pas par stoïcisme. Cicéron, Pilate était stoïcien. Et beaucoup de chrétiens ont voulu suivre les commandements par stoïcisme, avec la méthode du stoïcisme. Et c'est curieux parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on finit toujours par trahir. On finit toujours par une lâcheté à un moment donné. On ne peut plus. Ponce Pilate. Dieu seul peut aimer à la hauteur du Christ, de Dieu. Voilà. Et c'est ça le don au fond que Jésus nous a fait en nous donnant la grâce. En nous donnant la grâce, il nous donne la possibilité de laisser à la grâce la possibilité de s'ouvrir. La grâce au-dedans de nous va pouvoir s'ouvrir et à l'action de Dieu. Et c'est ça au fond l'oraison. Donc on avait vu les fois précédentes ce que c'était que l'essence de l'âme, ce par quoi la grâce sanctifiante qui est en nous peut s'ouvrir. C'est grâce à ce regard qui est plus que le regard de l'âme, Parce que le regard de l'âme ne va pas. Il ne faut pas prier Dieu en le regardant avec son âme. Il faut le regarder avec ce qui est encore plus, qui dépasse l'âme, et en même temps qui fait que l'âme existe, c'est l'essence de l'âme. C'est ça le regard spirituel qui permet à la grâce que nous avons reçue, à laquelle nous sommes très attentifs, de s'ouvrir. Ça, nous avons vu ça, nous avons bien expliqué ça. C'est avec l'essence de l'âme que je vais regarder Dieu, que je vais regarder Jésus, que je vais venir au ciel, voyez, que je vais venir à la grâce aussi, que je vais venir à moi-même profondément. Bon, et puis on avait vu aussi les autres fois comment, à partir de là, on pouvait commencer à rentrer dans les châteaux, dans les demeures de la possibilité pour Dieu d'agir en nous. Bon, ces demeures, nous avons expliqué comment ces demeures sont des espaces, des trésors extraordinaires où le Seigneur nous attend. Il nous attend dans sa demeure. Mais c'est progressivement qu'on va entrer dans les demeures les plus, où Dieu sera le plus lui-même dans sa transformation. Et donc c'est pour ça, on le sait très bien, qu'il y a les demeures du commencement, les demeures de la progression, les demeures de la lumière, les demeures de l'union et les demeures de la perfection. Il y a 7 demeures. Et on avait vu donc les fois précédentes, donc les 2 fois précédentes, on avait regardé la demeure des commençants, la demeure de la première demeure, l'oraison mentale. La première demeure, c'est pour nous, parce que nous sommes des débutants. C'est pour les commençants, la première demeure. Donc c'est pour nous. Vous n'allez quand même pas dire que vous êtes déjà à la 7e demeure. Sauf si l'un d'entre vous est déjà à la 7e demeure, je vous supplie qu'il vienne prendre ma place, parce qu'il est très 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 beaucoup plus avancé que moi. Comme ça, il expliquera comment on arrive jusqu'à la 7e demeure. Moi, je crois que je sais pas, mais il me semble que j'ai pas atteint encore. Moi, je sais pas. Je demanderai à mon père spirituel. Mais je pense pas avoir dépassé la 4e demeure. Sûrement pas. Sûrement pas. Alors, on avait expliqué la raison mentale, la première demeure. Et la première demeure, on comprend simplement à un moment donné que on avait regardé donc que ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans le château, on décide qu'on n'en sortira plus du château. C'est très important ça. Autrement dit, la raison est une règle. C'est une règle. Et c'est ce que dit Saint Thérèse d'Avila. Il vaudrait mieux 1000 vies pour quelqu'un qui a commencé l'oraison et puis qui s'arrête, par exemple, à la 3e demeure. Oui. Plutôt qu'une seule où il continue, oui. Ça, c'est... Une fois qu'on est rentré dans le château, il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas sortir du château. Autrement dit, dès qu'on rentre, c'est pas parce qu'on est chez les commençants qu'il va y avoir des purifications actives, qu'il va y avoir des purifications passives, qu'il va y avoir des transformations purgatives. N'est-ce pas qu'il y aura des nuits à causer de l'âme, et qu'il y aura des nuits de la foi, et qu'il y aura des nuits d'esprit. Il n'y aura pas que ça. Dieu est bon, quand même. aura pas que ça. Mais c'est pas parce qu'on sera, on va souffrir des attaques, des invasions, des attaques terribles des démons, terribles, que du coup, on renonce. Et puis on sort du château. Il y a des gens qui arrivent, effectivement, c'est vrai, à la troisième, quatrième demeure, et puis ils retournent à la première demeure. Ils se cantonnent à la méditation. Ça, c'est un très grand malheur. Saint Thérèse d'Avila qui dit ça. Mais je vous en parle pour la deuxième demeure, parce que c'est quand on passe de la première à la seconde demeure que justement on prend conscience que cette fois-ci on ne peut pas, quand on est rentré dans le château de la transformation chrétienne, de par la raison, on ne peut plus se permettre de reculer. Et donc on avance. Et on rentre effectivement dans la seconde demeure. Et dès qu'on est dans la seconde demeure, on comprend ça. On comprend qu'on ira jusqu'au bout. On comprend que ce n'est pas facile, mais on comprend qu'on ira jusqu'au bout. Et on décide qu'on ira jusqu'au bout. On tient. Oui, on tiendra Dieu et Dieu nous tiendra. Comme dit le cantique des cantiques, tenui nec dimitta. Je te tiens, je ne te lâche plus. Et ça, c'est la caractéristique de la deuxième demeure. Vous voyez, enfin, la première demeure, c'est un temps que je donne. Je décide de donner du temps au Seigneur pour que, voilà, que ça y est, c'est, désormais c'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le Maître. C'est lui qui donne, c'est à lui que je donne tout mon temps de prière. Et à ce qu'il a dit, à ce qu'il est. Et vous voyez, je vais prendre tout mon temps, toute mon attention à la présence de Jésus, à la présence de Dieu. Et mon regard sera sur lui, et les portes seront ouvertes. Je suis rentré dans la première demeure, je suis rentré dans le château, donc les portes sont ouvertes, et donc il va pouvoir rentrer, donner sa vérité, donner sa réalité, donner ce qu'il est, faire comprendre qui il est. Et donc on va rentrer dans les, donc je ne vais pas revenir sur l'oraison, mental, vous voyez, c'est plus que de la méditation, l'oraison mentale. Je suis très très attentif à Dieu. Et je réalise énormément de choses sur lesquelles le Seigneur me fait comprendre l'immensité de sa présence et en même temps l'énormité, par exemple, du mal. Le mal n'est pas une chose normale. Mais dans l'oraison, je peux très bien, par exemple, dire voilà, je voudrais avoir le sentiment que tu as par rapport au mal. Pour Dieu, le mal n'est pas normal. Pour nous, c'est normal. Mais pour Dieu, c'est pas normal. On se révolte contre quelqu'un qui ne nous respecte pas, et bien c'est pas normal. Dieu s'est révolté. Mais nous, on trouve c'est normal de se révolter contre quelqu'un qui nous a commis une injustice. On trouve c'est normal. Eh bien non, c'est pas normal. Le mal n'est pas normal. Vous voyez, donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la première demeure de l'oraison. C'est très simple. La veille au soir. Attention, on fait oraison tous les jours. Il faut donner environ 1 à 4 heures. N'exagérez pas. Hein. Donnez 1 heure, d'oraison 50 minutes, par exemple. Vous êtes féroce sur les 50 minutes. 90% de ce qu'on vous demande, c'est ça. C'est donner ces 90 minutes, c'est tout. Il faut donner du temps à Dieu. 90 minutes. Et puis, c'est une règle. Et on ne la lâchera plus. On ne la lâchera plus. Celui qui la lâche, c'est pas un rage, le plus. Je ne suis pas le seul à le faire. Énormément de compassion pour lui. quelques temps j'arrive à une demeure, par exemple, où le péché est vaincu, et puis qui lâche leur raison, et puis qui tombe dans le péché, je veux dire, après, il faudra 30 ans après pour arriver au même. C'est terrible. C'est terrible. Les gens qui ne sont pas fidèles. Leur raison, c'est pour ceux qui sont croyants, donc ceux qui sont fidèles. Celui qui ne veut pas être fidèle, qui n'est pas fidèle du Seigneur, qui ne fasse pas. C'est réservé aux croyants, c'est réservé à ceux qui ont la foi. Donc ils veulent rester fidèles jusqu'à la mort. Mais si tu veux rester fidèle jusqu'à la mort, tu dois faire la mort. C'est essentiel. Et donc on a vu, c'est la veille au soir que je vais me coucher, que je vais dire voilà demain Seigneur. C'est vrai, je vois pas très bien comment tu peux révéler toi avec l'Esprit Saint, avec Jésus, avec Marie, avec les anges, ce que c'est que la damnation par exemple, ceux qui sont séparés éternellement de Dieu. Moi ça ne dit rien ça. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance de la damnation? Vous voyez, les gens qui sont séparés de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la damnation et qui pensent à la damnation et qui trouvent ça très bien. Moi j'en ai vu plein de gens. C'est très bien d'être séparé de Dieu. Déjà je suis séparé de Dieu, je trouve ça parfait. Mais comment est-ce que je pourrais avoir ce sentiment, cette impression de anagogique, puis cette impression bien réelle, bien limpide aussi, ce que c'est que le sens du mal, cette séparation de Dieu, ce que ça représente. Alors cette espèce de d'horreur devant ce que ça représente. C'est Dieu qui peut me donner cette révélation. Vous comprenez? Alors, le soir, la veille, le soir, je vais me coucher, et je vais dire, demain, Seigneur, si tu pouvais me révéler les secrets pour vivre ça, pour voir ça, pour comprendre ça, pour méditer ça, pour voir se dévoiler ça, ou alors quelque chose d'autre, vous pouvez rire, vous avez mille choses à méditer, vous pourriez quand même savoir qu'est-ce que ça peut représenter tout de même, qu'est-ce que ça peut représenter. La très sainte Trinité. Je voudrais tellement savoir saisir un petit peu de l'intérieur de la très sainte Trinité. Vous voyez, je peux prendre un texte, je peux prendre un des exercices de Saint Ignace, puisque vous voyez, vous prenez le petit cahier des exercices de Saint Ignace de Loyola, je vous en ai donné un la dernière fois, principe et point et fondement. Vous le lisez tranquillement, vous le méditez le soir avant de vous endormir, et puis c'est l'objet de votre oraison du lendemain. Une oraison prend toute la journée, si je puis dire, en ce sens que elle se conçoit la veille, elle est semée dans la nuit de notre âme, dans le sommeil, elle se réveille le matin, elle naît dans l'oraison, et ensuite, eh bien, elle est portée, sans qu'on le sache, pendant tout le reste de la journée. C'est grâce à ça, d'ailleurs, c'est grâce à l'oraison qu'il va y avoir une unité de la présence de Dieu dans toute notre journée. Vous verrez qu'à partir d'un certain moment, dans la vie unitive, on ne quitte plus jamais la présence de Dieu. Et justement, on va découvrir que le péché, c'est quand je quitte la présence de Dieu. Et ça, quand on est dans la première demeure, on l'a toujours pas découvert. Hein. Je quitte la présence de Dieu. Et alors, on a bien expliqué ça. Hein. On a expliqué la préparation lointaine, préparation immédiate. Et de comment on fait pour rentrer du coup dans l'oraison, et on voit bon. Une des choses évidemment les plus normales, normal pour l'oraison, c'est quand je rentre en oraison, c'est de me recueillir, évidemment, de recueillir et de me mettre dans un contexte, et puis d'être très, 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 très éveillé, et puis d'être extraordinairement attentif, et puis de prendre un sacramental, voyez, de me mettre devant le Saint-Sacrement si vous voulez, mais je préfère, moi, devant un texte de l'Évangile ou devant une croix, que je mets dans ma main, ou une icône, ou une statue, ou alors, rien de tout ça, mais Jésus devant moi. Vous voyez? Parce que faut quand même pas oublier que les icônes, par exemple, et les sacramentaux ne sont pas la présence de Jésus. Mais elles sont la présence de Jésus si j'y applique toute mon attention. Vous voyez? Vous savez ce que c'est que la différence entre un sacrement et un sacramental? C'est pour ça que vous faites bénir le crucifix de Saint-François, etc. Bon, et un crucifix dans les mains. Ah, une icône dans les mains, au niveau là, vous mettez devant une icône, c'est tout, vous allumez une bougie, vous regardez le feu de la bougie, c'est une bougie, vous la bénissez, ça devient un sacramental. Vous voyez, un sacramental n'établit la présence de Dieu que dans la mesure où vous y mettez toute votre ferveur, votre attention et votre foi. C'est proportionné à votre ferveur, votre attention et votre foi. Alors, Jésus est présent. Mais vous avez aussi l'oraison elle-même est un sacramental. Donc, dès lors que vous commencez l'oraison, vous invitez évidemment Jésus, vous invitez évidemment l'Immaculé, vous invitez évidemment votre ange gardien. Parce que plusieurs sont là en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, dès que vous êtes en oraison, automatiquement, le Seigneur est vraiment présent. Il est là. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ça, c'est l'entrée dans l'oraison. L'entrée dans l'oraison de la première demeure. Considérez quand même que ce temps-là, il est pour Dieu et Jésus, lui, il est présent, il est en moi. Et à un moment donné, c'est ça, l'entrée dans l'oraison, c'est de faire des actes de regard sur Dieu, sur Jésus qui est là, il va y avoir une communication, il va y avoir un dialogue, il va y avoir un partage. Seigneur, je ne suis pas bien en ce moment. Heureusement que c'est là, mais je ne suis pas bien. Non, c'est là, je ne suis pas bien. Bon, Seigneur, je fais une bonne oraison. Hein. C'est toi qui vas la faire à ma place, parce que bon, on va partager, on va ouvrir son, on va considérer, on va regarder. On va méditer sur le fait que Jésus est là et on va lui dire, Seigneur, tu vois, j'aurais tellement aimé savoir comment tu voudrais réagir au fond de moi par rapport à ce qui vient de m'arriver, tout ça. Et puis voilà, et puis j'ouvre mes portes, et puis je vois que Jésus c'est quand même plus important que mes petits problèmes. Mais Seigneur, pardon, c'est vrai encore, je tourne autour des histoires, alors tu es là. Mon Dieu, mais c'est effrayant. Alors je vois. Et là, petit à petit, le dialogue tourne finalement à l'oraison, puisque je dis, mais Seigneur, c'est vrai que c'est toi qui es là. Et vous voyez ce que je vous ai lu la dernière fois, par exemple, l'oraison mentale de Sainte Marguerite Marie à la Coque, c'est pas beau, Jésus qui d'un coup dit, mais enfin quoi? Tu vois pas que je frappe? Qu'en ce moment, sur la terre, il n'y a personne qui m'invite à venir dans son cœur, personne! Je suis outragé, broyé, écrasé, qu'on me crache dessus, qu'on me déchire la peau. Je veux quand même quelqu'un qui m'ouvre la porte, ouvre, que je puisse trouver mon repos à l'intérieur de toi, que je puisse tout être là, quoi. C'est Dieu qui frappe à notre porte. Jésus est là avec Dieu, il veut rentrer. Alors je rentre en oraison. J'ouvre mes portes et je laisse le Seigneur parler du dedans de moi et avec moi et on va méditer ensemble et il va me faire découvrir et je vais essayer de l'écouter. Je vais écouter, d'abord en sa présence, être attentif voir que c'est lui, voir la soif incroyable, désespéré, si je puis dire, de Jésus, de pouvoir enfin trouver quelqu'un qui lui ouvre la porte. Il y en a au moins un dans le monde. Pendant tous les autres, ils prient en disant, Seigneur, je sais que ma petite fille n'est plus en surongle, avec mon machin. Ouais. La réunion de demain, je puisse gagner un peu de 15% de plus, que ma vache ne meurt pas. Enfin, bon. Tout le temps est là, et puis j'ai plus ces problèmes, là, ça me gratte ici. Stop, c'est Dieu, quoi. L'oraison, c'est le Seigneur, vous voyez, donc, à un moment donné, voilà, est-ce que je peux rentrer? Vous voyez, c'est ça, première demeure. Est-ce que je peux rentrer? Alors, et avec lui, on va méditer. On peut très bien, vous voyez, on peut très bien méditer un des mystères du rosaire. On peut très bien prendre dans tous les exercices de Saint-Ignace. Il y en a, je ne sais pas combien, il y en a plus de 200, je crois. On prend un exercice de Saint-Ignace. Après tout, on l'a déjà prévu la veille au soir. Et puis voilà, avec Jésus, on va rentrer dans l'exercice de Saint-Ignace. Ou bien alors, on prend le principe des fondements, par exemple, que je vous ai donné hier, on prend l'épître aux Éphésiens. Enfin bref, avec Jésus va nous parler directement du dedans, et il va faire sa méditation en nous. Vous voyez, c'est la première demeure. Parce qu'au moins pendant ce temps-là, vous voyez, eh ben, je ne vais pas avoir mes distractions, mes trucs qui vont venir, vous voyez. Si j'ai des distractions qui reviennent pendant ces 50 minutes d'oraison, c'est pas grave. Vite, je reviens, je dis pardon Seigneur, oui, je refais. Vite, et puis on va à nouveau rentrer dans cette oraison mentale. Vous voyez, mentalement, c'est Jésus à sa place et c'est ce qu'il dit qui m'intéresse. À travers la Sainte Église, à travers la doctrine, à travers les saints, à travers l'Esprit Saint. Alors, le passage à la deuxième demeure, c'est que, c'est toujours pour les commençants, c'est que l'oraison mentale, c'est bien, mais c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on fait l'oraison mentale? Pourquoi est-ce qu'on fait l'oraison mentale? Parce que, dans les premières demeures, parce que quand on est dans les premières demeures, qu'est-ce que vous voulez? On est encore tellement imparfait, tellement rempli de péché, tellement orgueilleux, si vous voulez, tellement centré sur nous-mêmes, nos problèmes, nos souffrances, on n'y arrive pas, nanana. C'est uniquement nous qui comptons, hein, le reste, fiche complètement. Alors, est-ce que j'ai pas telle maladie? Est-ce que j'ai pas tel problème? Est-ce que j'ai pas tel péché? Oui, la mélancolie, le scrupule, la psychopathologie, je sais pas. Tout le psy, quoi. Tout ce qui est psy, métapsy et tout, quoi. Bon, alors, prenez un gros paquet, hop, et bien tout ça au feu pendant la raison, vous voyez. Au feu. Au feu, ça c'est le jardin. On rentre dans le château, il n'y a plus d'ortie. On rentre dans le château et on rentre. Et voilà, et c'est le Seigneur qui a sa place. Bon, c'est pas bien rangé, d'accord. Il y a des problèmes. J'ai des mauvaises tendances. Je suis encore attaché à des choses qui vont m'amener directement à la colère, au péché, à la pensée impure, ou à la parole de malédiction. C'est vrai, je suis encore lié à tout ça. Je suis encore dans le péché mortel. Enfin, facilement en tout cas. Facilement, vous voyez. Bon, c'est à cause de ça que si je ne fais pas oraison mentale, si je ne fais pas oraison en préparant déjà la veille, puis en méditant profondément et en laissant Jésus m'expliquer tout ça lui-même de l'intérieur, ou devant moi, hein, et bien si je ne fais pas comme ça, et bien qu'est-ce que vous voulez, tous les docteurs spirituels vous indiquent que vous ne pourrez pas vous en sortir. Le Seigneur ne pourra pas arracher le péché mortel de vos habitudes. Il faut faire oraison une heure par jour en faisant comme ça. Et je dis, c'est bizarre, je n'ai pas du tout vaincu ce péché mortel-là, l'orgueil. Bon, très bien. Ah bah très bien. Ah non. Oui, ben je vais méditer comment Jésus, dans son humilité, a vécu pleinement la victoire sur l'orgueil, en étant couronné d'épines, méprisé, injurié, Et comment son humilité y trouvait une béatitude immense, immense, immense. Hein, je vais méditer ça, par exemple, et je vais méditer, je sais pas, vous voyez, je peux très bien faire ça. Ben, je vais comprendre, parce que si je ne suis pas détaché du péché, c'est parce que j'en ai pas horreur. Si j'en ai pas horreur, c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Et si je ne sais pas ce que c'est parce que, justement, c'est parce que je n'ai pas laissé le Seigneur me le révéler. Donc la première demeure est très importante. C'est pour les commencements, c'est pour nous. Et on sait qu'on a dépassé la première demeure lorsque dans la vie courante, dans la journée, bon, ça fait 3 ou 4 mois que je peux constater que non seulement je ne tombe plus dans des péchés graves, mais en plus le mensonge, par exemple, ou je vous dis la calomnie, ou autre, et non seulement ça, mais en plus, j'ai suffisamment de force, disons, pour enlever les chemins qui mènent au péché. Parce que vous voyez, quelquefois, vous c'est ce qu'on dit quelquefois, vous voyez, je renonce à Satan, à toutes ses œuvres, à toutes ses séductions, et ici, quatrièmement, à tout ce qui conduit au péché. À tout ce qui conduit. Ah, qu'est-ce que vous voulez, il y a des amitiés qui vous conduisent à vos péchés, hein? Ah, c'est sûr, ça. C'est indéniable. Vous allez à tel endroit, vous serez faible face au péché. Vous allez à tel endroit, vous êtes sûr que le Seigneur va vous fortifier contre le péché. Comme ça. Alors, vous voyez que grâce à cette habitude de prière, de raison, il y a une transformation qui fait que ça vous est possible d'enlever la télévision, de la mettre à la cave. Avant, impossible, hein. C'est vrai que la télévision, c'est horrible. Tous les péchés que je fais avec la télévision, avec le machin, c'est affreux. Mais je serais incapable de la mettre à la cave. Incapable. Incapable. Tout ce qui conduit au péché, hop. C'est extraordinaire, ça. C'est à ça qu'on voit que, bon, on a un petit peu d'amour de Dieu, le début de l'amour de Dieu. Et si on a le début de l'amour de Dieu, on rentre dans la deuxième demeure. Un début d'amour de Dieu, vous voyez, un début d'amour. On commence à avoir non seulement un regard à partir des sens de l'âme, mais il y a un amour plus qui nous enveloppe plus profondément que l'âme, qui fait qu'on aime Dieu. Et c'est la deuxième demeure. Et la deuxième demeure, c'est une demeure extraordinaire de l'oraison où on va enrichir, épanouir, laisser le Seigneur enrichir, épanouir, imprégner, imbiber d'amour, d'affection, de tendresse, de transformation affective, de transformation amoureuse, de transformation d'union, de transformation, de communion, de transformation, voyez, de complicité avec l'amour, avec le souffle de l'amour, le souffle irrésistible de l'amour de Jésus. Et donc, l'oraison, vous voyez, commencera par la deuxième demeure. Et bien, on va la veille, par exemple, on va dire, c'est vrai, il y a de la manière dont Jésus a aimé Marie, ou la manière dont Jésus a aimé Simon de Cyrène quand il portait la croix avec lui tous les deux ensemble. La manière, il y a une manière divine, il y a une manière surnaturelle, il y a une manière surnaturelle à travers la souffrance atroce du chemin de croix de Jésus, que l'amour qu'il avait pour Simon de Cyrène est surnaturel, avait une force. Oh, je voudrais tellement recevoir cet amour-là. Vous voyez, la veille. votre raison va porter beaucoup plus sur l'union affective, l'union surnaturelle affective. Quelque chose qui vient de Dieu à travers le cœur de Jésus. Vous voyez ? Vous comprenez ? Alors, c'est-à-dire que l'oraison, vous savez que ce sera une heure pour donner, pour supplier Jésus que tout son amour sensible même, hein, m'envahisse, me fasse expérimenter, me réveille quelque part, quelque chose. Que mon tout petit amour de rien du tout à moi, me fasse que je devienne fou d'amour pour Jésus, pour Dieu. Que j'ai un amour de Dieu, mais très, 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 très grand. Mais c'est Dieu qui va me mettre ce souffle-là. Et c'est pour ça que vous voyez, je vous ai donné ces petits papiers là. Parler de l'oraison affective, c'est très difficile. Alors vous verrez, si vous lisez Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, dans la deuxième demeure, c'est tellement difficile que du coup, elle n'en parle jamais. On ne peut pas parler de l'oraison de la deuxième demeure. On ne peut pas en parler. L'amour, ça ne s'explique pas. Ça s'expérimente. Mais si la veille, j'ai demandé à Jésus d'être là pendant mon oraison, et qu'il y ait vraiment un écoulement d'amour de lui à moi, de moi à lui, et que je lui demande vraiment et que je m'endors en disant, Seigneur, que la sagesse créatrice de l'amour dans mon cœur s'exprime librement, c'est décidé. Pour moi, c'est décidé. Vous voyez, et je vais faire oraison avec ça. Alors je dirais, je vais peut-être encore continuer à faire de l'oraison mentale, parce que des considérations, je dis, ah Jésus, voilà. Seulement à chaque fois que je prononce le nom de Jésus, aussitôt, j'ajouterai que j'aime, vous voyez, par exemple. Quand vous assistez à la messe, c'est dans la deuxième demeure, je crois, vous l'avez déjà dit une fois, quand vous assistez à la messe, vous assistez à la deuxième demeure. Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Je confesse à Dieu tout puissant. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ben, c'est pas ça. L'église dans la deuxième demeure, c'est au nom du Père que j'aime, et du Fils que j'aime, et du Saint-Esprit que j'aime. Amen, Amen. Le Seigneur que j'aime, c'est avec vous que j'aime. L'amour va s'inscrire à chaque mot. Vous comprenez, il y a l'enveloppement de l'essence de l'âme à s'envelopper. Et, vous voyez, je peux. C'est un choix de libre, cet amour. L'amour, c'est quelque chose. Alors, je confesse à Dieu que j'aime tout puissant amour que j'aime, tout puissant amour, que j'ai péché contre l'amour. En pensée contre l'amour, en parole, de parole, et par action d'amour. Et par omission d'amour. Ah, c'est sûr que c'est très difficile de passer de la première à la seconde demeure si on n'a pas pardonné. Ça, c'est vrai. Vous voyez, c'est autre chose que l'oraison. Mais c'est vrai, n'empêche que si je n'ai pas pardonné, je ne peux pas passer à la deuxième demeure. Si je n'ai pas pardonné de tout mon cœur et complètement à l'Église, par exemple, l'Église l'a blessé. Heureusement que l'Église t'a blessé. Si tu n'avais pas de blessure, tu ne pourrais pas aimer. Hein? Tu ne peux aimer l'Église que si elle t'a blessé. Si elle t'a pas blessé, tu ne peux pas l'aimer. C'est impossible. C'est ça. On n'aime pas l'Église comme on aime une pièce de théâtre. Mais c'est extraordinaire, ça, de comprendre ça. Oui, c'est l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a du vrai et du bon vin. Il ne faut pas retirer le vrai. Il ne faut pas retirer le vrai. Quand tu veux, il ne faut pas que tu essaies de changer ton prochain. Il ne faut pas que tu essaies de changer ton curé. N'essayez pas de changer Père Patrick. Hein. C'est Dieu qui doit changer. Non, non, non. Toi, tu changes. Et après, Dieu s'occupe de lui. C'est un problème avec quelqu'un. C'est à toi de changer, d'être différent par rapport à lui. Et à ce moment-là, le Seigneur s'occupe de lui, t'inquiète pas. Papa allait chercher à tirer du frein. Jamais, c'est idiot ça. Oui, le néocolonialisme, c'est en nous. Hein. Alors donc, il faut pardonner, mais sans problème, sans. Il m'a fait tellement de mal, c'est tellement injuste. Ah oui, d'accord, tellement de mal, c'est tellement injuste. Bon, je vais lui pardonner. Comment est-ce que je vais lui pardonner? Mais, je vais lui pardonner en lui pardonnant, je m'excuse de dire ça, mais je vais lui pardonner en changeant. En changeant de comportement, en changeant mon cœur. Voilà comment on pardonne à quelqu'un qui nous a fait du mal. Je change mon cœur. Je change mon cœur. Je change vraiment mon cœur. Et puis du coup, je vois ce que je suis fait. Je suis. On voit bien que l'horizon de la seconde demeure est une horizon de transformation. Si le mal est sur moi, alors mon cœur est changé. Mon cœur est broyé. Mon cœur est transpercé. Mon cœur est souffrant. Alors du coup, je laisse le cœur de Jésus venir apaiser mon cœur et mettre la paix dans cette souffrance qui a été faite. Et du coup, c'est cette paix du cœur qui va rejoindre mon prochain. Mais vous comprenez bien que c'est lié, les deux, vous voyez, pardonner. Et je vais dire à Jésus, mais dans le doute où je suis, tu vas mettre le doux, la douce confiance de ton cœur à toi, de ton amour à toi. Mais dans ma peur d'être jugé, oh, j'ai peur d'être jugé, oh, je ne veux pas qu'on dise du mal de moi. Oh. Les gens qui prétendent disent « moi je fais raison », mais elles ont peur qu'on dise du mal d'elles. Ça fait vraiment rigoler. Si après elles disent « moi je prie ». Attends, si t'as peur qu'on dise du mal de toi, ça veut dire que tu pries pas. C'est purement, purement imaginaire ton truc. Alors enfin voyons, t'as pas peur qu'on dise du mal de toi. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on dise du mal de toi? Franchement. Alors bref, bon, moi j'ai peur qu'on dise du mal de moi, hein? Alors du coup j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. J'ouvre toutes les portes dans l'horizon, vous voyez, pour qu'il mette, pour qu'il déracine l'angoisse, pour qu'il mette la gratitude. Pour que je suis comme lui. Lui il a été méprisé, on a dit du mal de lui, on a dit que c'était un démon. Il a voulu qu'on l'accuse de toutes les fautes qu'avaient faites tous les pécheurs. Et il a été effectivement accusé, et pas seulement par les hommes, hein. Par le monde angélique. Et par la justice de Dieu. Il a été accusé de toutes les fautes qui ont été commises. Alors, moi, si je suis accusé de quelque chose que je n'ai pas fait, c'est formidable, quoi. Si je suis dans la deuxième demeure, vous voyez, si je suis dans la deuxième demeure, c'est évident que c'est formidable. Parce que du coup, il y a un échange d'amour qui peut se faire. Une transformation d'amour qui peut se faire. Un amour surnaturel chrétien peut commencer à venir dans mon affectivité incarnée. Dans cet échange d'amour de Jésus qui, lui, m'apprend à aimer grâce à ça. Grâce à ça. Et vous voyez bien que quand on lit, quand on voit, quand vous discernez, si vous êtes un jour père spirituel, n'est-ce pas, et que vous donnez des conseils à des gens qui font raison, si quelqu'un, vous voyez, a dépassé la deuxième demeure, vous le voyez. Les pères spirituels le savent bien parce qu'ils font exprès d'humilier, exprès injustement quelqu'un pour voir. Alors si c'est « oui, comme ça, bon, oui, non, pardon, t'as bien, on efface tout, on recommence, on passe à avant la première demeure. » Sinon, si vous trompez, vous pensez que vous avez échappé à la quatrième demeure. Non, elle n'a pas décollé encore même de la première. c'est ça. Il y a des... Bon. Alors, c'est pour ça que je vous ai donné ces petits papiers, parce que je trouvais ça intéressant de dire, ben voilà, c'est les lignes qui sont en dessous, les modalités de l'amour. Eh ben oui, j'ai un cœur qui surnaturellement manque de il y a cette présence d'amour qui n'est pas dedans. Vous voyez, il y a une présence, une fécondité, une surabondance d'amour qui n'est pas en moi. Je m'en rends compte, vous voyez. Je me rends compte que cette surabondance, cette présence amoureuse, surnaturelle, divine n'est pas en moi. Alors le soir, je vais m'endormir, si vous voulez bien. Et je vais dire, je voudrais que j'aille quand même, que laisser la liberté au Seigneur, au cœur de Jésus, de faire surabonder son amour, sa présence d'amour. Oui, à l'intérieur de moi. Et je voudrais méditer ça, à quel point son amour était surabondant avec Marie, avec moi, le jour de mon baptême. Enfin, ce sera une méditation d'amour, vous voyez. Ce sera pas une méditation. Alors, l'amour de Dieu est un amour vulnérable. L'amour de Jésus aussi, l'amour de Marie. L'amour humain, plus il est vient du cœur, plus il vient du cœur spirituel, plus il est vulnérable. Alors, je voudrais laisser la liberté à Jésus de changer mon cœur dans le sien. Je change l'eau en vin, c'est ça que ça veut dire, les doigts de canard. L'eau est changée en vin, c'est-à-dire mon cœur est changé dans le cœur de Jésus, qui lui est très très vulnérable. Et je voudrais vraiment que pendant ces 50 minutes, il y ait cette sensibilité, cette vulnérabilité. Je suis atteint. Moi, quelqu'un m'a suivi, que j'aime bien, ça me fait rire. J'aime cette personne et je l'insulte. Mais ça ne me blesse pas. Ah, il faudrait quand même que la personne, vous voyez, l'horizon de cette deuxième demeure, c'est très beau, hein. L'horizon de la deuxième demeure, c'est très indispensable, hein. C'est pour ça, ça fait très 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 fortement rire. Ma gorge déployée, ça me fait des habitats. Quand je vois certaines sœurs, elles disent, moi je suis au cinquième demeure. Elle me dit, je ris, la gorge déployée, quand je vois ces sœurs. Ils disent ça. Elle devait être très drôle, ça. Parce que quand elle devait y aller, quand elle devait y aller, ça devait être très simple. Pour toi, tu vois. Il y a mal à l'air. Et oui, vous voyez, allez, vous voyez très bien. Là, regardez, vous avez ici les 17 qualités, les 7 modalités de l'amour. Voilà. Il y a une lucidité dans l'amour. Une lucidité. Il y a une ferveur. Comme l'amour, oui, c'est une deuxième demeure, comme elle l'appelle, une vulnérabilité, mais du coup, pourquoi est-ce que c'est vulnérable? Pourquoi? Parce que l'amour est effervescent, mais c'est un peu comme l'amour de Jésus est dans mon cœur, et l'amour chauffe, du coup, ça boue, ça couvert, se couvert. Ça c'est mignon parce que je perds, je sais pas, vous voyez. La ferveur, c'est très lié à la vulnérabilité. Et en réalité, vous voyez ici, ces qualités-là qui sont là, sont liées. Vous pouvez toujours voir que c'est lié dans le cœur de Jésus à quelque chose de toujours très très concret, enfin, quand je dis concret, surnaturellement. Ce plan, son amour surnaturel ressemble à de l'eau qui purifie un amour éternel, c'est l'eau. Ça ressemble aussi à un souffle d'amour. Ça, c'est la présence, vous voyez. La présence, la surabondance, c'est un souffle. Quand vous êtes le cœur de Jésus en vous, et vous dans le cœur de Jésus, il y a ce souffle d'amour, ce souffle. souffle d'amour. Et vous êtes même la source du souffle d'amour. Cette relation abonde, c'est présent. Et ça, c'est des... Et le cœur de Marie, pareil. Vous, bien sûr, par raison avec le cœur immaculé de Marie, tout glorifié, tout ressuscité. Le cœur de Joseph. Et vous pouvez aussi, du coup, rentrer, vous voyez, tout, dans tous ces symboles. Dans tous ces symboles qu'on trouve dans la Bible, et qui sont effectivement marqués ici, et qui en réalité correspondent à quoi? Elles correspondent au septembre du Saint-Esprit. Mais dans la deuxième demeure de l'Union transformante, bien sûr, vous réclamez vraiment Saint-Esprit à travers la mort de Jésus tout transformé. Mais comme vous êtes encore attaché à beaucoup d'imperfections, qu'il y a beaucoup d'ivraies encore dans votre jardin, qu'il y a encore beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de fêlures, on est encore blindé, on n'est pas encore souple sous l'action de l'Esprit Saint, on n'est pas encore entièrement modelé par la grâce, on n'est pas divinisé par les cinquièmes et sixièmes demeures, pas encore. Alors du coup, on va demander à l'Esprit Saint de s'emparer du cœur. Lui, au moment, il va s'unir à nous, vous voyez. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué, évidemment, c'est sûr, quand vous êtes affligé, il vaut mieux prendre la question, donc, vaut mieux prendre cette présence de Jésus, cette présence amoureuse de Jésus, et supplier qu'il y ait l'Esprit de science. L'Esprit de science va apaiser notre sensibilité blessée. Et notre sensibilité blessée, notre sensibilité est très blessée, hein, quand on est dans les commençants. Hein. Nous sommes tous les commençants, personne ne discute. Ici, tout le monde est les commençants. Ne discutez pas. Voilà. Bon. Et donc, on a une affectivité blessée. Bienheureux les affligés. Bienheureux les affligés, c'est l'esprit de science. Pendant l'oraison, sachez bien que c'est l'esprit saint. Mais comme, comme nous sommes encore dans la seconde demeure, en forme de gravité, hein, de notre transformation, eh bien, il va servir de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus va se répandre en nous. Il va aimer à travers notre cœur. Et ce sera un amour, il sera présent. Et je voudrais vraiment que le Seigneur soit libre de rendre présent son amour effectivement dans mon cœur sensible. Et je vais avoir un apaisement de mes sensations, un apaisement certains apaisements de mes souffrances. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus souffrir, mais ça veut dire que je vais souffrir encore, toujours autant, mais j'aurai en plus cette consolation de voir cette présence amoureuse dans mon cœur qui aime. Et c'est une consolation parce que l'amour infini de Jésus passe à travers mon affliction pour aimer le monde entier pendant cette heure d'oraison. C'est beau ça. Et c'est bien, il est bon, il est très bon, il est excellent, il est judicieux, il est nécessaire de demander à Jésus de quelquefois il nous le donne d'une manière miraculeuse. Vous voyez, vous vous trouvez par exemple dans une communion, parce que vous voyez quelquefois des gens qui communient, moi j'en ai vu, hein, c'est vrai. Vous leur donnez la communion, ils prennent la communion, et puis ils s'en vont, et puis ils s'en occupent même pas, c'est ignoble. Vous vous rendez compte, l'amour de Jésus, la soif que Jésus a de rentrer dans ce cœur-là, il se donne tout entier, il communie, et puis il s'occupe pas de lui. Le monde est ignoble, vous savez. Ignoble avec Jésus. Ignoble, j'ai vu ça. Hein. Et comme il dit, mais Jésus, c'est le moment pour Jésus de nous envahir, de servir de nous, enfin, d'aimer, d'être présent. Enfin, non, il ne partage pas avec lui rien. Mais le monde, c'est pas à cause des chrétiens, je crois pas. C'est parce que le monde est ignoble avec Jésus. Ignoble! Jésus, ignoble. Il est là, il est là. C'est ça, c'est vrai, il ne faut pas qu'il soit là dans les écoles, il ne faut pas qu'il soit là, même sur le cou d'un enfant. Il ne faut pas qu'il soit là. Mais vraiment, c'est fou. Et quand tu communies, ben oui, d'accord, tu peux communier pour faire une messe noire. Tu as le droit de communier pour faire un sacrilège.
C'est ignoble.
C'est terrible, ça. Mais là, quand je communie quelquefois, ben, je vais partager. Je dis, mais quelquefois, miraculeusement, mon cœur brûle. Ou, quelquefois, je me mets devant une icône, c'est miséricordieux, je crois, puis tu parles, et hop, je suis enflammé. Ça, c'est pas une oraison. C'est un appel à l'oraison. Vous voyez la différence entre l'oraison et l'appel à l'oraison. Jésus fait un miracle, il vous brûle le cœur, et c'est voilà. Quelqu'un prie pour vous, vous impose les mains et pof, le temps est par terre, vous êtes rempli d'amour de Jésus dans l'intérieur de vous. Alors ça, c'est un miracle, mais c'est un appel à l'oraison. D'ailleurs, si vous êtes tombé, ça veut dire que vous ne faites pas oraison. Quelqu'un qui a oraison, il tombe. Parce que Dieu n'appelle pas à l'oraison quelqu'un qui est déjà. C'est comme ça que quand on va à l'auditorium, on reconnaît ceux qui font raison et ceux qui font pas raison. Pop, ça se fait. Ah, tiens, celui qui fait pas raison, là, moi, à chaque fois, je leur dis. Ah, toi, tu fais pas raison, ben, ça se fait. Comment ça me suit? Non, tu fais pas raison. Ben, comment tu le sais? Ben, t'es tombé. Toute personne qui tombe, c'est que tu penses. C'est normal. C'est commençant. Normal. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans le christianisme, de commençants. Ils n'ont même pas commencé, d'ailleurs. La phrase qui tombe. Alors, mais c'est trop long de tomber. Ah, je suis envahi par l'essence de l'âme, vous voyez. Tout se rassemble, et il y a une bénédiction, il y a une liberté de Dieu de faire, de se répandre, d'agir. J'entends, je suis conscient, mais en même temps, je ne fais rien, c'est Dieu qui agit. Donc c'est Dieu qui dit, tu vois, c'est comme ça qu'on fait oraison. C'est comme ça. Tu dis rien, tu as si, bon, au début, tu peux méditer, tiens, bon. Mais bon, de plus en plus, c'est le Seigneur qui va méditer à travers toi, c'est le Seigneur qui va aimer à travers toi. Et de plus en plus, c'est sa présence vivante, fulgurante, vulnérable, qui va surabonder dans le monde à partir de toi pendant ton oraison. Vous voyez? Ça. Alors, que je peux avoir des miracles, je peux avoir une apparition. Vous voyez ce que va dire Saint Jean de la Croix pour la deuxième demeure. Il dit, vous allez avoir une apparition d'une vive flamme d'amour qui va vous embrasser. Et cette apparition, c'est un appel à vivre de la seconde demeure. Vous voyez? C'est pas parce que vous avez l'apparition, il dit, ça y est, j'ai eu un coup de téléphone avant-hier, quelqu'un qui a dit. J'ai lu toute Sainte-Thérèse d'Avila, j'en suis à la sixième demeure. Je vis exactement tout ce que. C'est terrible de confondre une apparition avec ce qui se passe à la sixième demeure. L'apparition, c'est un appel. Tout le temps les apparitions à cause de ça. Voilà. Donc très très mauvais signe. Voilà. Vous voyez ? Alors voilà. Et voilà, je ne suis pas assez miséricordieux. Alors, vous pouvez très bien utiliser, vous voyez, ce petit papier qui est tout simple, mais il y a mille artifices, bien sûr, pour rentrer dans l'oraison affective. Mais en tout cas, il y a cette préoccupation, vous voyez. Si je vois que cette présence d'amour de Jésus, je ne suis pas habituellement accoutumé, si ce n'est pas une grâce habituelle en moi, il faut vraiment que je demande au Seigneur de me le rendre habituel. Donc il faut que je fasse raison avec ça. Oui. Pareil pour la vulnérabilité, pareil pour la force de conquête. C'est marrant, vis-à-vis de l'amour, je ne suis pas conquérant. Une force de conquête. Et dans l'amour, il y a une force d'unité. après. Moi, je veux bien prier pour les enfants qui ont été avortés, les pauvres qui souffrent, qui attendent que je me réponde amoureusement dans leur âme pour qu'ils puissent avoir quelque chose d'amour, pour qu'à leur tour, ils puissent répondre par un amour qui leur a été donné, communiqué, par participation, ils vont se amplifier. Mais c'est bizarre, je veux bien prier pour eux, mais j'arrive pas à les aimer, et j'arrive pas à avoir cette force d'unité dans l'amour avec eux. Cette force d'unité. L'amour a pris une force. Vous voyez, les 17 modalités d'amour qui sont là, qui sont la signature, vous voyez, de la présence du cœur spirituel. Et donc si, au milieu de l'ivresse de mes révoltes, de mes jalousies, de mes pardons non donnés, tout ça, mes afflictions, mes égoïsmes, de mes maladies mentales et compagnie. Bon, si au milieu de ça, je voulais faire pousser le blé quand même. Le blé de tous ces amours-là, hein, qui poussent dans le cœur de Jésus et qui vont donc pousser dans mon cœur parce que le cœur de Jésus est mien. Le cœur pendant l'oraison, mon cœur, c'est-à-dire si Jésus va tellement apaiser mon cœur qu'il va remplacer son cœur par le mien. Et ce ne sera plus mon cœur, l'eau va se changer en plein, c'est ça la deuxième oraison, vous voyez. Et je vais faire tout, porter toute mon attention, toute ma liberté, tout mon temps aux 50 minutes uniquement à cette réalisation. Jusqu'à ce que le Seigneur, petit à petit, par transparence, par lumière, par souffle d'amour, fait que du coup, oui, non seulement il pardonne, mais il voit tout à fait différemment celui qui me fait du mal. Il ne m'a pas fait du mal. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans son cœur. Tu ne peux pas le savoir. Tu ne le peux pas. Donc c'est toi qui dois lui demander pardon, puisque tu l'as jugé. Donc c'est ton cœur qui doit être transformé. À ce moment-là, tu lui demandes pardon. Et en lui demandant pardon, tu as compris que tu lui avais pardonné, forcément. Il y a un retournement qui se fait, vous voyez. On veut toujours que ce soit les autres qui aient aux autres de nous demander pardon. C'est pas vrai, c'est faux. C'est incroyable comment l'orgueil a renversé le cœur humain. C'est terrible, Jésus. Il a demandé pardon, Père. Regarde ce que vaut l'humanité à travers moi. Voilà ce que je vaux. Voilà. Voilà. Voilà ce que je vaux. Cette espèce de résistance vis-à-vis de la volonté du Père. Qu'il a vécu à fond à Gethsémani. Voilà ce que je vois. T'as arraché un nombre de pardon et un amour un amour de la miséricorde du Père pour cette distance qu'il y avait entre lui et la volonté du Père. Mais que ce soit ta volonté, non pas la mienne. Et petit à petit, je vais reprendre peut-être les mystères du rosaire, je vais reprendre les exercices de Satania, je vais reprendre ce que j'avais déjà appris dans la première demeure, mais avec l'amour. Avec cet surgissement, et du coup, pour m'y habituer dans la journée, voyez, pendant ces périodes-là, si je m'y suis encore jamais habitué de ma vie, et c'est pas si mal, je vais mettre le mot amour partout, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, du Père que j'aime, du Fils que j'aime. Seigneur, je te prie pour ma fille que j'aime, et ma maman que j'aime, que tu aimes. Et j'ajoute le mot amour, je peux quand même faire un acte d'amour quand même, c'est pas compliqué, je fais avec Jésus. Je souffle d'amour les atteigne. Même si je ne ressens pas, je fais que mon père, voilà, mon papa, allez, voilà, que le souffle d'amour de Jésus l'atteigne. Mais si le souffle d'amour de Jésus n'a pas l'atteindre, mais disons, je vais avoir cette préoccupation, vous voyez, dans cette deuxième demeure, vous comprenez ? Ce n'est que la deuxième demeure. Et si je vis pleinement, si je vis ça tous les jours, allez, pendant ma transformation surnaturelle d'oraison, vous verrez qu'effectivement, nous aurons la victoire le Seigneur va obtenir pour nous une victoire écrasante, c'est que l'ivraie, on ne sera pas attaché, et le blé, on ne sera attaché. Ça veut dire qu'on ne fera plus jamais péché. On fera des fautes. Vous voyez, on va mentir, mais ce ne sera pas un péché parce que, on ne s'est pas rendu compte qu'on avait menti. Vous voyez ? Pour que ce soit péché, il faut s'en rendre compte qu'on ment. Aussitôt qu'on va dire une grossièreté, par exemple, eh ben, on va dire. Dans l'instant, on ne prend aucun consentement. Autrement dit, c'est grâce à la deuxième demeure qu'on va lutter contre le péché véniel. Première demeure, lutte contre le péché véniel. Deuxième demeure, c'est des périodes où on lutte contre le péché véniel. Vous voyez, toutes ces fautes qu'ordinairement on dit, c'est pas grave. C'est des fautes, on dit, c'est pas grave. Mais c'est quand même le péché véniel, mais c'est un petit mensonge. Je me suis saoulé, oui, enfin c'est une fois par mois. Ça, à la limite, le diable. Bon, là, c'est vrai. Vous voyez ? C'est pas grave. Si alors là, deuxième demeure, il n'y a plus de consentement à ça. Il y a un dépôt par rapport à ça. Si jamais on retombait dans une faute, automatiquement il n'y aurait pas de consentement, il n'y aurait pas de complaisance, voyez, il n'y aurait pas de complicité. Et donc il n'y aurait pas de péché. C'est grâce à la deuxième demeure. Et du coup, quand on a cet amour du bien, et qu'on n'a plus du tout l'amour du mal, même si on fait des fautes, vous voyez, contraire au commandement, on fait des fautes, mais, j'allais dire, on n'a pas fait attention, quoi. On était sous hypnose. On était dans un état cataleptoïde somnambulique, on a eu un flashback d'un trip d'acide qu'on avait pris il y a 10 ans, quoi. Et un flashback, ok. Voilà. Mais sinon, fondamentalement, votre cœur ne pêche plus, vous voyez, il n'est plus attaché au mal, il n'est plus attaché à ce type de mal, il n'est plus attaché à la drogue, il n'est plus attaché au sexe, il n'est plus attaché à l'adultère, il n'est plus attaché à la colère, il n'est plus attaché à l'autosatisfaction de soi, à la révolte vis-à-vis des gens qui me remettent en question, etc. Vous voyez ? Un signe de grande présomption. Ça, non, on n'est plus attaché à tout ça. Voyez, on n'est plus attaché à cette espèce de jalousie maladive, voyez, ou à un scrupule orgueilleux. Voyez. On n'est plus attaché à ça. On ne le fait plus. On aime le bien. On aime aller vers les vertus. On aime l'humilité. On aime la chasteté. On aime la patience. On aime l'injure. Voyez. Alors à ce moment-là, oui, je crois qu'à ce moment-là, on peut commencer à rentrer, ce qu'on verra la prochaine fois, on va voir que petit à petit, on peut rentrer facilement dans le recueillement. Dans le recueillement de l'horizon. Cette troisième demeure, on la verra la prochaine fois, parce que tout de même, le recueillement, c'est très important. C'est vrai. C'est parce que là, à ce moment-là, dans le recueillement, vraiment, il n'y a plus que l'amour qui compte. Voyez. On ne lutte pas contre nos défauts, on ne lutte pas contre des qualités qu'on n'a pas, on ne lutte pas pour acquérir des qualités qu'on n'a pas, mais on va lutter cette fois-ci, on va chercher. C'est le recueillement, c'est on va être recueilli dans l'amour, on va se laisser recueillir. C'est très beau ça, hein. La deuxième demeure est quelque chose de très beau. Vous voyez, parce que l'essence de notre âme, c'est comme une espèce de. C'est comme cette pulpe qu'il y a dans le bouton d'une fleur. Et première demeure, la fleur s'est dressée. Deuxième demeure, la pulpe se laisse voir à la lumière. La lumière de l'amour de Jésus, de la présence de Jésus, peut pénétrer dans la pulpe qui est à l'intérieur. Alors les pétales, qui sont précisément toutes les qualités de l'amour, sont là à resplendir. À s'ouvrir de plus en plus. Ça, c'est la deuxième demeure. Et du coup, c'est sûr que l'accueil, la fleur, on va pouvoir l'accueillir, on va pouvoir la recueillir. Ce sera la troisième demeure. Vous voyez bien qu'il faut d'abord que l'amour puisse de Jésus. C'est sûr que là, c'est Jésus. C'est Marie, si vous voulez, mais c'est l'Esprit Saint. C'est le ciel tout entier, c'est toute la Jérusalem glorieuse qui est victoire de son amour, qui rentre en vous, vous voyez, qui rentre dans cette pulpe-là, petit à petit. C'est tout fin, et un petit rayon, puis des pétales sur vous. Ça, c'est la deuxième demeure, vous voyez. Il faut prier, dire que notre cœur s'ouvre à l'amour invincible de Dieu. C'est l'horizon effectif. Les dons. Eh bien, écoutez, les dons, c'est des dons, des larmes. Il faudra lire Sainte Catherine de Gênes. Il y a 8 sortes de dons de l'âme. Donc, il y a des dons de l'âme qui sont charismatiques, d'abord des qui sont psychologiques, d'autres qui sont humains, puis deux qui sont charismatiques, d'autres qui viennent de grâce actuelle, d'autres qui viennent de cette fameuse demeure ici dont je vous parle aujourd'hui, là, hein, l'affliction. Et il y en a une autre qui se trouve, que vous trouverez dans les demeures de la transformation cinquième demeure, et qui font qu'effectivement il y a. C'est comme si vous atteignez tous les cœurs humains ensemble et que vous les déraciniez, quelque chose de quoi les hommes dans leur ensemble tiennent beaucoup, et alors ils pleurent tous à l'idée de perdre ça. Et puis à un moment, il y a les pleurs de Jésus, il y a les larmes glorieuses de Jésus. Vous voyez, c'est très très variable, c'est pas parce que vous avez des larmes que du coup c'est les larmes de la septième demeure. Ça peut très bien être des larmes d'ordre purement psychologique, en disant il y a une présence d'intériorité et du coup vous êtes ému. Ça c'est humain, c'est naturel, vous voyez. Bon, et si le Seigneur il peut vous toucher dans la deuxième demeure, en disant, mais tu sais, je t'aime tel que tu es, il faut bien que tu saches tel que tu es, je veux répandre tout mon amour éternel de là maintenant, pendant ces 50 minutes. Et je constate ça, je vois qu'il se répand, mais sans. Alors ça me touche. Alors, vous voyez, ça me touche. C'est humain. Dans la deuxième demeure, il y a quelque chose d'humain. Vous voyez, les transformations qui opèrent dans la deuxième demeure restent des transformations d'ordre humain. Parce que mon cœur n'est plus humain. Alors j'ai besoin du cœur de Jésus pour avoir même un cœur humain. C'est vrai que c'est avec la puissance de Dieu qu'il va me redonner un cœur humain. Un cœur qui aime, quoi. Je ne sais plus ce que c'est que l'amour. Je ne sais plus ce que c'est que la surabondance. La vulnérabilité. L'amour, la souffrance d'amour. Oui. Mais il va y avoir quelquefois, je communie, et puis des larmes qui vont sortir. Ça peut être un intermédiaire, si vous voulez, avec la béatitude des affligés. La béatitude des affligés qui fait qu'il y a quelque chose en moi qui se sépare d'un péché auquel, quelque part, mon cœur tient beaucoup. Parce que, vous savez, si on fait du mal, c'est parce qu'on aime ce mal. On finit par aimer le mal qu'on fait. Vous voyez ? Alors du coup, quand vous communiez, le Seigneur, il dit, il vous arrache à tout ça, miraculeusement, vous sentez, vous ne le sentez pas, vous n'en avez pas conscience, mais votre âme, le dessous de votre âme, ressent que quelque chose doit s'arracher de quoi ? Quelque chose qui est mal, parce que ça vous empêche d'être pleinement Dieu, et vous devez vous en arracher, parce que ça vous fait pleurer. Donc c'est un bon signe, c'est un signe que le Seigneur est en train de vous détacher quelque chose à quoi vous tenez, mais vous n'arrivez pas à savoir de quoi il s'agit. Ordinairement, c'est ça. La plupart du temps, c'est ça. C'est souvent ça. Quand vous avez des larmes de prière, c'est souvent ça. Mais les larmes de prière que le Seigneur attend de nous, c'est les larmes de Marie. Vous voyez, c'est les larmes de la grâce. C'est ce qui est sorti du cœur de Jésus après le sang. Quand le cœur de Jésus est ouvert, il y a eu le sang. Après, à la fin, il y a eu l'eau.
ce lado.
Et puis enfin, plus encore, il y a les larmes du mariage spirituel. Mais ça nous vient. Si tu nous prédis, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus.